une fois encore, bonjour à tous. Donc, c'est toujours un moment merveilleux, un moment béni quand les enfants de Dieu se retrouvent. C'est comme une famille, hein. Quand on se retrouve, il y a des neveux, il y a des nièces, il y a des petits-enfants, il y a des petits-frères, des grands-frères, des mamies, des papis. C'est une grande joie. Et nous, nous formons une famille de Dieu. Et quand on se retrouve les dimanches comme ça, nous devons être dans la joie. Non seulement parce que nous nous retrouvons, mais parce que le Seigneur est avec nous et parmi nous. Et c'est ça qui nous réconforte en tout cas. Nous allons méditer ensemble ce que le Seigneur a voulu que nous puissions méditer ce matin. Mais avant cela, nous allons prier. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre nos yeux, oui, les yeux de nos cœurs, pour que nous puissions contempler les merveilles qui se trouvent dans ta parole. Guide-nous pendant ces instants. Prépare nos cœurs, afin que nos cœurs puissent être un terrain fertile sur lequel toi tu vas semer ta parole, cette semence qui va germer et qui va produire des fruits dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à la mettre en pratique, cette parole, au nom de Christ. Amen. Frères et sœurs, la crise sanitaire COVID-19 reste d'actualité dans les médias, dans les journaux, pendant les infos, sur Internet. Cette crise reste toujours d'actualité et on nous parle encore d'une autre crise. Eux qui sont intelligents, soi-disant, selon le monde, d'une crise économique et sociale. Certaines entreprises connaissent déjà des difficultés des ralentissements économiques et financiers même, et ont du mal à reprendre leurs activités, leur personnel est toujours au chômage. J'ai un ami, depuis le mois de mars jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a toujours pas repris le travail. Ils attendent. Et c'est dur à cause de cette crise. Mais si nous lisons bien la Bible, il y a eu aussi des crises économiques et sociales dans la Bible. Mais à l'époque, leur économie n'était pas comme la nôtre. Ce n'était pas des entreprises comme maintenant, les Renault, les Peugeot Citroën, Airbus, Air France. Non, ce n'était pas comme ça. Leur économie était différente de la nôtre. Et les termes qu'ils utilisaient à la place que nous appelons crise économique et sociale, eux, ils n'appelaient pas ça comme ça, crise économique et sociale. Le terme utilisé dans la Bible, c'était quoi? La famine. La famine. Et ce matin, avec la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons méditer sur une partie de la vie d'un homme de foi, d'un grand homme de foi, qui a connu cette crise économique sociale à leur époque, qui a connu la famine. Je vous laisse chercher dans votre mémoire. De quel homme de foi s'agit-il? Ne répondez pas, cherchez dans votre mémoire. De quel homme de foi s'agit-il? Il a connu la famine. Et avec l'aide du Seigneur, nous allons voir comment ce grand homme de foi a réagi face à cette famine. Comment il a réagi face à cette crise économique à l'époque qui était imprévu aussi, comme nous, qui était imprévu. Ce qu'il a fait, ce qu'il a bien fait, et ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il a mal fait. Et je vous donne le nom de cet homme, c'est Abraham. Le nom de cet homme, c'est Abraham. Peut-être vous avez trouvé aussi d'autres hommes, c'est vrai, parce qu'il y a plusieurs cas de famine dans la Bible. Mais ce matin, le nom de cet homme, c'est Abraham. Alors, ouvrons nos Bibles et cherchons le livre de Genèse, au chapitre 12, le verset 10 à 20. Genèse dans l'Ancien Testament, le premier livre de la Bible, Genèse chapitre 12, le verset 10 à 20. Nous lisons la parole de Dieu à partir du verset 10. Genèse chapitre 12, le verset 10 à 20. Le verset 10. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarah, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme !» Ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Pharaon traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarah, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme. Prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de les renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. C'est la parole du Seigneur. Le titre de notre message ce matin, c'est Abraham, parce que plus tard il deviendra Abraham. Abraham se tourne vers l'Égypte plutôt que vers Dieu. Abraham se tourne vers l'Égypte plutôt que vers Dieu. Notre partage sera axé sur trois petits points. Le premier point, Abraham face à la crise. Le deuxième point, nous verrons le mensonge d'Abraham. Et enfin, le troisième point, le mécontentement de Pharaon. Abraham face à la crise, le mensonge d'Abraham et enfin le mécontentement de Pharaon. Le premier point, c'est Abraham face à la crise. Quand nous lisons ces chapitres, surtout le chapitre 12 de Genèse, si nous remontons à partir du premier verset, voici ce que Dieu a dit à Abraham. C'est très important qu'on commence par là. Écoutons ce que Dieu a dit à Abraham dans Genèse chapitre 12, le verset 1. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Voici ce que Dieu a dit à Abraham. Et effectivement, Abraham obéit et a fait ce que Dieu lui avait dit. Par obéissance, nous voyons que Abraham a manifesté une démonstration d'une foi remarquable parce qu'il a accepté de quitter son pays natal et d'aller vers l'inconnu. Par obéissance à Dieu, il a fait cela. D'ailleurs, dans Hébreux chapitre 11, le chapitre 11 d'Hébreux qui est le chapitre sur la foi, le chapitre même de la foi, il est dit au verset 8 de Hébreux 11, C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit vers un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Il faut le faire. Il faut le faire, frère. Qui ferait cela sans avoir une foi solide en Dieu? Sans avoir une foi solide en Dieu. Nous-mêmes, quand nous voyageons, donc je vais aller aux États-Unis, je vais aller en Allemagne, je vais aller en Italie, déjà t'appelles, je vais réserver l'hôtel, je vais réserver ceci, mais Abraham, pas de réservation, il faut aller. Il s'en va. Frères et sœurs, louons cette foi-là qu'avait Abraham. Qui vraiment pourrait faire cela sans avoir une foi solide? Abraham quitte tout et va vers ces lieux. Quel lieu? La terre promise. Quel lieu? La terre promise. Et pourtant, la terre promise, cette terre que Dieu a promis à Abraham, et pourtant, dans le passage que nous venons de lire, qu'est-ce que nous voyons? Cette terre connaît une crise. Ah! Une terre que Dieu a promis à Abraham, et Abraham arrive sur cette terre, qu'est-ce qu'il y a? La famine. Certaines personnes peuvent se poser la question, comment cela est-il possible? Dieu t'envoie là-bas et t'arrives là-bas, une crise. C'est pas possible. Alors, certaines personnes vont se poser beaucoup de questions. Vous savez maintenant, dès qu'il vous arrive quelque chose, les gens interprètent, argumentent, comme ils veulent. Hein. Alors là, peut-être, certaines personnes peuvent se poser des questions. Est-ce que Abraham était vraiment dans la volonté de Dieu? Mais la réponse est oui. Oui, il était au milieu de la volonté de Dieu, Abraham. Parce que il était là, sur ce lieu, dans ce pays, à Canaan. Il était là par obéissance à Dieu. Et c'était un cadeau de Dieu, cette terre. Parce que Dieu a dit, je te donnerai. Mais il arrive sur cette terre, hop, crise, c'est pas possible. Peut-être je me suis trompé. Peut-être j'ai été désobéissant. Mais non. Abraham était obéissant, malgré ce qu'il a connu quand il est arrivé dans ce lieu. Au verset 10 du chapitre 12 que nous venons de lire, nous lisons, « Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Car la famine était grande dans le pays. » Même pas une petite famine, mais la Bible dit, quand la Bible dit c'est grand, c'est que c'était vraiment grand. C'était vraiment grand. Au milieu de l'obéissance, au milieu de la volonté de Dieu, il y a une crise, il y a une famine. La Bible ne nous dit pas à quel point cette famine était grave ou combien cette famine allait durer. La Bible ne nous dit pas si cette famine allait prendre un an, deux ans, trois ans, dix ans, c'est pas. À peu près comme le Covid, hein. Ça va durer combien de temps? On ne sait pas. Cette famille était brusque à l'époque d'Abraham. Notre crise aussi, boum! Imprévu, brusque. Ça va prendre combien de temps? On ne sait pas. Mais la Bible dit simplement que cette famille était grande dans le pays. C'est ce que la Bible dit. Une famille grave, était vraiment grave, on ne savait pas quand ça va finir, mais seulement, la Bible dit que cette famine était grande. Vous savez, vous pouvez vraiment être dans la volonté de Dieu, obéissant et connaître ce qu'Abraham a connu. Vous pouvez être vraiment sur le droit chemin et connaître ce que Abraham a connu. Obéissant, dans la volonté de Dieu, boum, ça arrive. Ah! On commence à se poser des questions. Vous savez, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible des cas comme ça. Regardons dans Marc chapitre 6, le verset 46. Dans Marc chapitre 6, verset 46, il s'agit de l'histoire des apôtres avec Jésus-Christ. Les disciples avec leur Seigneur. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans Marc chapitre 6, verset 45? Aussitôt après, Jésus obligea. Suivons bien les termes qui est utilisé ici. Là. Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il eut lieu renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. En deux mots, pour ne pas lire toute l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus demande à ses disciples de passer de l'autre côté. Les disciples, ils ont obéi à Jésus-Christ. Ils étaient obéissants à Jésus-Christ. Mais dès qu'ils arrivent en pleine mer, boum, une tempête. Terrible. Mais ce n'est pas possible. Mais c'est Jésus-Christ qui leur a dit d'aller là-bas, de passer de l'autre côté. Mais comment ils doivent être confrontés à cette situation difficile? Est-ce que Jésus a voulu vraiment le mettre en danger ou quoi? Alors on peut se poser quelques questions, même concernant les disciples aussi. Est-ce qu'ils étaient dans la volonté de Jésus-Christ en passant de l'autre côté, en prenant la barque? La réponse est oui. Ils étaient dans la volonté de Jésus-Christ parce que c'est Jésus-Christ qui leur a dit cela. Et ils ont obéi. Et pourtant, en obéissant à Jésus-Christ, les disciples ont connu l'une des tempêtes les plus violentes de leur histoire. Malgré qu'ils étaient obéissants, ils ont obéi à l'ordre de Jésus-Christ. Frères et sœurs, ne pensons jamais que la voie du Seigneur que nous suivons est toujours le chemin le plus calme et le plus doux où il n'y a pas de problème. Détrompons-nous. Détrompons-nous. Nous avons vu le cas des disciples. Nous avons vu le cas d'Abraham. Ne pensons jamais que la voie du Seigneur est toujours le chemin le plus doux, le plus calme. Parfois, le chemin le plus difficile peut être le chemin, peut-être le chemin du Seigneur pour vous et pour moi. Le pays de Canaan, là où était Abraham, représentait le meilleur de Dieu pour Abraham. Ça représentait, c'est ce qui était le meilleur que Dieu a donné à Abraham, malgré qu'il y a eu cette crise. Le meilleur endroit, frères et sœurs, est celui où le Seigneur vous place. Le meilleur lieu, c'est là où le Seigneur te met, te place. Même si c'est difficile, même si ces lieux, vous êtes confrontés à des situations difficiles, mais si c'est Dieu qui vous a placé là-bas, c'est le meilleur lieu pour vous. Pourquoi? Pour la simple raison que là où Dieu vous place, le Seigneur fera quoi? Le Seigneur pourvoira. Quelle que soit la famine, quel que soit ce qui va arriver après, et si vous restez là où Dieu vous a placé, le Seigneur pourvoira. Le Seigneur pourvoira. Alors, quand la famille est arrivée, merci frère. Et quand la famine est arrivée, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a quitté le pays de la promesse et s'est retrouvé où? En Égypte, le pays des problèmes. Il a quitté là où Dieu l'a placé. Et il est allé à l'étranger, en Égypte. Et moi, J'ai dit que l'Égypte, pour Abraham, c'est le pays des problèmes. Abraham fait ce que certains d'entre nous font en période de difficulté, malheureusement. Malheureusement, Abraham a fait ce que beaucoup ou certains d'entre nous font quand il y a des difficultés. Abraham met sa confiance dans l'homme et non en Dieu. Et cela nous amène au deuxième point. Le deuxième point qui est le mensonge d'Abraham. Le mensonge d'Abraham. Dieu n'a pas appelé Abraham pour aller en Égypte. La parole de Dieu ne le dit pas. Dieu a appelé Abraham, nous avons vu ça au premier verset du chapitre 12, dans le pays où lui, il va le montrer, et c'était Canaan. Dieu a appelé, a dit à Abraham de quitter sa terre natale pour aller à Canaan, et non pour aller en Égypte. Abraham n'a pas demandé à Dieu de lui montrer ce qu'il fallait faire quand la famine est arrivée. Nulle part dans la Bible, dans ce passage, nous voyons que Abraham a pris du temps et a consulté le Seigneur, a consulté son Dieu. La Bible ne le dit pas. Il est allé en Égypte seul, sans avoir d'abord prié à ce sujet et demandé au Seigneur de le guider. Beaucoup de personnes nous faisons cela. Hein? Beaucoup d'entre nous ne nous voilons pas la face. Nous sommes devant notre Dieu qui connaît nos cœurs. Rien n'est caché devant lui. Beaucoup de personnes nous faisons cela. Nous allons d'abord, nous arrivons sur place, et c'est après qu'on va maintenant se retourner vers Dieu. Ah Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi cela? Abraham est allé en Égypte sans avoir prié, sans demander au Seigneur de le guider. Pour chaque situation, pour chaque chose, frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, reviens vers ton Père dans la prière. Parle avec ton Dieu et demande à ce Dieu de te guider. N'y va pas tout seul. Abraham est parti tout seul. Et l'Égypte dans la Bible est représentée comme une image et un type du monde. C'est là où les enfants d'Israël ont été tenus en esclavage pendant 400 ans. N'oubliez pas cela. Abraham a été appelé par Dieu. C'est vrai. Il savait qu'il a été appelé par Dieu. Abraham a été choisi par Dieu. Mais Abraham a décidé d'aller en Égypte comme s'il n'y avait pas Dieu. Je ne sais pas si vous comptez. Donc vous voyez un peu le contraste. Il a été appelé par Dieu. Nous avons vu ça au premier verset. Il a été appelé par Dieu. Il a été choisi par Dieu. Mais pour aller en Égypte, il y va tout seul. C'est comme si Dieu n'existait pas dans sa vie. Faisons attention à ce genre de comportement, frères et sœurs. Et nous allons voir par la suite qu'est-ce qui va arriver pour Abraham. Au lieu de faire confiance à Dieu, qu'est-ce qu'Abraham va faire? Il va élaborer un plan pour faire face à la famine. C'est comme nos gouvernements, hein? Ils élaborent des plans pour faire face à... face au Covid, face à la crise économique qui va venir, tout ça, dans nos familles, dans nos maisons, on élabore des plans. Ah non, mais bon, je pense que comme maintenant, il faut faire des heures supplémentaires. Hein, Donc, on élabore des plans pour faire face à une situation. C'est ce qu'Abraham a fait. C'est lui qui faisait confiance à Dieu. Lui qui a fait confiance à Dieu. Quand je méditais ce passage, ça m'a beaucoup interpellé. Abraham qui faisait confiance à Dieu, parce que ce n'est pas facile, frères et sœurs, de quitter sa terre natale et aller se lancer dans l'inconnu. Ce n'est pas facile. Nous autres, nous avons quitté d'où nous venons, mais on savait quand même que dès que j'arrive en France, bon, je vais trouver la sœur Jeannine. Bon, dès que j'arrive, je l'appelle, elle viendra me chercher, elle va me guider dans mes démarches, tout ça. Mais Abraham, non, frères et sœurs. Il n'y avait que Dieu. Il n'avait que Dieu. Il n'avait que Dieu. Il n'avait que Dieu. Lui qui faisait confiance à Dieu pour quitter sa terre natale, va maintenant céder à la peur. Va maintenant céder à la peur parce qu'il y a la famine. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a confiance en son propre plan qu'il a élaboré et il prend lui-même les choses en main. Entre guillemets, il ne voit pas l'importance de consulter Dieu, si nous pouvons dire cela. Il ne voit pas l'importance de consulter Dieu. Il prend la direction des choses entre ses mains. Lui-même, il prend les choses en main. Et c'est que, qu'on ne comprend pas aussi, c'est que, comment avoir une foi forte dans une circonstance? Quand il a quitté son pays natal, il avait une foi forte. Et avoir une foi, bon, qu'est-ce qu'on dit en français? Défaillante. Hein? Enfin, une foi forte dans une situation et une foi bon, faible ou défaillante dans une autre situation. Comment vous comprenez cela? Une foi forte pour quitter son pays natal et une foi faible, défaillante, quand il s'agit de la crise, quand il s'agit de la famine. Et tout cela, il y a une situation et une autre situation. Donc, dans la situation suivante, c'est autre chose. Ce n'est pas possible. Les circonstances ont changé et ta foi aussi a changé. Alors que les circonstances ne devaient pas avoir d'importance dans notre vie de foi. Les circonstances ne devaient pas avoir d'importance, parce que Dieu, le Dieu à qui tu avais confiance pendant la première situation, quand il a quitté sa terre natale, c'est le même Dieu dans la nouvelle situation aussi. Quand tu as quitté, il a quitté la terre natale, c'est le même Dieu, et quand tu as eu la crise, la famine, c'est toujours le même Dieu. Dieu n'a pas changé. Et la Bible dit que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce ne sont pas les situations qui vont nous faire vaciller, va faire changer notre foi. Parce que nous ne mettons pas notre confiance sur les circonstances, mais nous mettons notre confiance sur qui? Sur Dieu. Le Dieu des circonstances. Oui. Abraham a oublié quelque chose. Il a oublié, mais pourquoi Dieu a agi ainsi? Il a oublié cela. Et notre sœur a, pendant les offrandes, a joué la mélodie d'un chant, et dans ses paroles, il dit que Dieu n'agit pas sans plan ni dessein. Dieu n'agit pas sans plan ni dessein. Dieu agit parce qu'il avait un plan pour Abraham et une volonté pour Abraham. Abraham devait le savoir. Mais lorsque Abraham était sur le point d'entrer en Égypte, qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique quelque chose. Écoutons la parole de Dieu. Abraham, qui est sur le point d'entrer en Égypte, il parle à sa femme. Il parle à sa femme de sa beauté et du danger qu'elle représente pour elle. Ah, ta plus belle femme, avec qui tu as été tout le temps. Maintenant, elle commence à présenter un danger pour toi. C'est ce que dit Abraham. Lisons Genèse 12, le verset qu'on a lu, le verset 11 à 13. Qu'est-ce que Abraham dit? Abraham dit au verset 11, Je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je t'en prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Frères et sœurs, c'est très grave, comme disent les Français, c'est très grave. Pourquoi? Parce que Abraham demande à sa femme de faire quoi? De mentir. Abraham demande à sa femme, à Sarah, de mentir et de dire qu'elle est sa sœur. Bon, en lisant la Bible, Abraham n'a pas dit faux. Mais il n'a pas dit vrai non plus aussi. Pourquoi? Parce que si vous lisez un peu plus loin dans Genèse chapitre 20 et le verset 12, vous verrez que nous lisons que Sarah était la demi-sœur à Abraham. Sarah était la demi-sœur à Abraham. Mais plus important encore, il était sa femme. Elle était sa demi-sœur, mais elle était vraiment sa femme. Alors, dire une demi-vérité ou une partie de la vérité, c'est dire un mensonge. Soit tu dis toute la vérité et rien que la vérité, ou rien. Donc c'est un mensonge. C'est dire un mensonge en disant une partie de la vérité. Sachant que, et en plus comme il était sa femme, sachant que la relation conjugale est trop sainte et trop sacrée pour jouer avec. C'est trop sainte, cette relation conjugale est sacrée pour jouer avec. Alors Abraham, au lieu de faire confiance à Dieu, Abraham fait confiance à qui? À deux catégories de personnes. La première catégorie, Abraham fait confiance aux Égyptiens. Abraham fait confiance aux Égyptiens. Pourquoi il fait confiance aux Égyptiens? Parce qu'il dit, quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, ils me tueront. Je te prie, dis que tu es ma sœur, et afin que je sois bien traité à cause de toi. Donc, quand tu diras que tu es ma sœur aux Égyptiens, les Égyptiens vont bien me traiter. Abraham met confiance aux Égyptiens, à sa femme. Deuxième catégorie, c'est sa femme. Abraham met confiance, met sa confiance en qui? À sa femme. Il dit quoi? Il dit, je te prie, dis que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive à cause de qui? À cause de Sarah. C'est très grave, frères et sœurs. Abraham dit, ils me tueront. Mais si toi tu dis que je suis ton frère, que tu es ma sœur, ils vont bien me traiter. Et quand tu dis que tu es, toi tu dis que tu es ma sœur, ils vont bien me traiter et mon âme va vivre grâce à toi. Maintenant, son âme va vivre non pas grâce à Dieu, hein, grâce à toi. Donc, l'âme d'Abraham va continuer à vivre grâce à Sarah. Grâce à Sarah. Donc, c'est Sarah maintenant qui va commencer à donner le souffle de vie à Abraham. Voilà le mensonge que Abraham à fabriquer. Et dans tout cela, où est Dieu? Où est Dieu? Où il place Dieu? Nulle part nous lisons que Abraham met sa confiance à Dieu. Abraham met sa confiance aux Égyptiens et sur Sarah. Mais quand il dit qu'ils me tueront, les Égyptiens me tueront et te laisseraient la vie. C'est pas vrai, frères et sœurs. Personne ne pouvait tuer Abraham. Pourquoi? Abraham ne pouvait pas mourir en Égypte. Parce que la promesse que Dieu lui avait faite n'est pas encore accomplie. Nous l'avons lu au verset 1. La promesse que Dieu avait faite à Abraham n'est pas encore accomplie. Et plus loin au verset Genèse 12, le verset 2 et 3, nous lisons ceci. Je ferai de toi, Abraham, Dieu avait dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Vous pouvez continuer à lire jusqu'au verset 4. Est-ce que à ce niveau, il est devenu déjà une grande nation? Non. Est-ce que son nom est devenu déjà grand? Non. Alors, pourquoi Abraham doit dire que si tu dis que tu es ma sœur, si tu dis que tu es ma femme, pardon, ils me tueront? Non. Abraham n'allait pas mourir parce que ce que Dieu avait dit à Abraham n'est pas encore accompli. Quand Dieu fait une promesse, il l'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir. Quand Dieu dit quelque chose, il le fait. Il le fait. Abraham croyait plus sur son mensonge qu'à ce que Dieu avait dit. Il croyait plus sur son mensonge au lieu de croire sur les promesses de Dieu, les promesses que Dieu lui avait données. Et cette histoire, frères et sœurs, nous l'avons vue aussi dans quand nous avons fait la vérité fondamentale. La question 14, c'était: par quel péché nos premiers parents ont-ils transgressé la loi de Dieu? La réponse était: ils ont transgressé la loi de Dieu en écoutant la voix de qui? En écoutant la voix du diable. Et dans le jardin d'Éden, Ève a péché dans le jardin d'Éden parce qu'elle croyait plus au mensonge du serpent qu'elle ne croyait à ce que Dieu leur avait dit. Je ne sais pas si vous faites un peu le parallèle entre les deux. Ève a cru plus à ce que le serpent lui avait dit. Parce que le serpent lui avait dit que, oh, les jours où vous mangerez ces fruits, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Ève dit au serpent, non, Dieu avait dit de ne pas manger cet arbre qui est au milieu. Parce que le jour où nous mangerons, nous mourrons. Le serpent dit, non, vous ne mourrez pas. Ève a fait quoi? Il a beaucoup cru au mensonge de serpent qu'à la vérité, qu'à la parole de Dieu. Abraham a beaucoup cru sur son mensonge au lieu de croire à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu que Dieu lui avait faites. Il y a un autre exemple aussi dans la Bible, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, Jésus-Christ lui dit, avant que le coq chante, Pierre, tu vas me renier 3 fois. Pierre dit, jamais, jamais, même si tout le monde t'abandonnait, moi Pierre, je t'abandonnerai jamais. Et nous connaissons la suite. Pierre a beaucoup cru à son mensonge, parce que Jésus-Christ lui disait. C'est triste pour un enfant de Dieu de se détourner de la vérité et choisir les mensonges. Et dans ce monde, nous voyons cela beaucoup. Beaucoup de personnes se détournent de la vérité, de ce qui est la vérité, de la parole de Dieu, et embrasser le mensonge. Et cela a toujours eu des conséquences dans la vie. Si nous sommes sincères devant le Seigneur, comme nous sommes là, en commençant par moi-même, si nous sommes sincères devant le Seigneur, il y a des moments où le mensonge surgit dans nos cœurs pour essayer de justifier certaines choses que nous faisons ou nous permettons dans nos vies. Soyons honnêtes. Regardons nous-mêmes devant la glace. Des fois, le mensonge surgit dans nos cœurs. Soit pour te défendre, ou soit pour justifier quelque chose que vous avez fait. Et là, ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Abraham est allé en Égypte sans demander l'avis de Dieu. Abraham n'a pas nié Dieu. Mais il a mis un peu de côté, il ne l'a pas associé dans son projet. et beaucoup d'entre nous le font aussi. Combien de fois nous faisons la même chose? Tu n'as pas nié Dieu. Tu n'as pas nié Dieu. Mais tu ne l'as pas inclus dans ce que tu fais. Tu l'as mis de côté. En Égypte, quand vous lisez bien le séjour, ce temps de séjour d'Abraham en Égypte, Abraham n'avait fait, il n'a pas fait d'autel pour le Seigneur, pour l'Éternel. Il n'offrait aucun sacrifice. Il n'a rien offert à l'Éternel quand il était en Égypte. Et il n'a élevé aucune prière quand il était en Égypte. Il a totalement laissé Dieu en dehors. Il a mis Dieu en dehors dans tout ce qu'il faisait. En dehors de tout ce qu'il faisait. Faisons attention, frères et sœurs. Nous sommes enfants de Dieu. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, même si la chose est difficile, même si la chose est difficile, comme c'était le cas d'Abraham, avant d'entreprendre quoi que ce soit, reviens vers ton Père. Associe ton Dieu. Et qu'il t'accompagne aussi. Chose qu'Abraham n'a pas faite. Le troisième point, c'est le mécontentement de Pharaon. Le mécontentement de Pharaon. Ce qui est intéressant dans ce récit, c'est que Dieu ne nous traite pas comme nous le méritons. La Bible dit qu'il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais il nous traite toujours avec grâce et miséricorde. Voilà comment le Seigneur nous traite. Abraham et Sarah ont dû se sentir impuissants face à leur situation en Égypte. Mais cela ne signifie pas que Dieu les a abandonnés. Voici ce que Dieu dit et voici ce que Dieu a fait pour eux en Égypte. Le verset 17 du chapitre 12. Nous lisons le verset 17 au chapitre 12 de Genèse qui dit « Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarah, femme d'Abraham. » Dieu a frappé la maison de Pharaon à cause de ce qu'il a fait. Pharaon a vite compris que c'était à cause de Sarah que tous ses problèmes lui arrivent. Il s'est rendu compte que Sarah était la femme d'Abraham. Il s'est rendu compte que Sarah était une femme mariée. Nous lisons au verset 18 à 19 ce que Pharaon a fait. Alors Pharaon appela Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu ne m'as pas tu déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ta sœur? Aussi je l'ai prise pour ma femme. Prends-la, allez, va-t'en. Prends-la et va-t'en. » Frères et sœurs, voici un roi païen, un païen qui fait des reproches à un enfant de Dieu. Comme on dit souvent, le monde à l'envers. Voici un roi païen qui fait des reproches à un enfant de Dieu. Pourquoi? À cause de ses mensonges, à cause de son comportement. Pharaon fait des reproches à Abraham. Pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité? C'est un enfant de Dieu qui doit dire ça à un païen. Parce qu'un enfant de Dieu est censé dire toujours la vérité. Mais maintenant, c'est un païen qui ne connaît pas la vérité qui dit à un enfant de Dieu, pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité? En tant qu'enfant de Dieu, frères et sœurs, si nous avons une mauvaise réputation, si nous n'avons pas une bonne réputation dans le monde, sachons que nous donnons une mauvaise image, non seulement des chrétiens, mais une mauvaise image de notre Dieu. Une mauvaise image de notre Dieu. Abraham a perdu son témoignage devant Pharaon. Parce que Pharaon lui dit, prends ta femme, allez, va-t'en. Il n'était plus crédible devant Pharaon. Qu'est-ce que Abraham pouvait dire encore à Pharaon que Pharaon allait écouter et mettre en pratique? Rien du tout. Moi, je sais, quand on était petit, j'avais un petit frère qui était vraiment, il était très turbulent. Et dès qu'il y avait quelque chose à la maison, nos yeux, en commençant par moi-même, les parents, « Ah, ça doit être lui !» Ça doit être, même si ce n'est pas lui, ça doit être lui. Pourquoi? Parce que tellement il faisait des bêtises, il avait déjà un mauvais témoignage. Qu'est-ce qu'il pouvait dire encore à la maison qu'on puisse croire? Même s'il disait la vérité, ça ne passait pas. Ça ne passait plus. Ça ne passait plus. Parce que son témoignage était gâché. Abraham n'était plus crédible devant Pharaon. Au lieu d'être la lumière du Dieu vivant dans les ténèbres d'Égypte, il n'a fait qu'apporter plus d'obscurité. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Et vous qui êtes le sel de la terre, vous faites autre chose. Comment voulez-vous qu'on puisse dire que le sel est bon? Non. Mais non. Mais non. Et Abraham est expulsé du monde par le monde. Le monde a expulsé Abraham. Il est expulsé du monde par le monde. Et retenons une chose, frères et sœurs. Les païens n'oublient jamais un mauvais témoignage d'un enfant de Dieu. Que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre quartier, que ce soit dans la famille. Les païens n'oublient jamais un mauvais témoignage d'un enfant de Dieu. Les païens se souviennent, ne se souviennent pas trop peut-être de nos bonnes actions, des bonnes choses que nous faisons. Ils ne se souviennent pas trop. Mais par contre, ils n'oublient jamais nos erreurs et nos faux pas. Détrompons-nous, que ce soit dans votre famille, dans la famille, que ce soit dans mon travail. Ils n'oublient jamais nos faux pas. Après, on dit, ah bon? Mais lui là, c'est un chrétien, regarde. Même 5 ans après, ça reste. Mais les bonnes choses que toi tu as faites pour eux, ça passe vite. Mais les mauvaises choses, ça reste. Et c'est vrai, parce que si nous allons dans le monde, bon, on va parler de l'apôtre Pierre. Si on demande la vie de l'apôtre Pierre dans le monde il connaît l'apôtre Pierre. Pose-leur la question, qu'est-ce que vous retenez de l'apôtre Pierre? Ah, c'est lui qui a renié Jésus-Christ 3 fois. Ils retiennent que, ils n'oublient pas, non, faut pas. Dans le monde retient de l'apôtre Paul, c'est lui qui a renié Christ 3 fois. D'autres vont dire, ah, c'est lui qui a essayé de marcher sur les eaux, et ça n'a pas marché, il voulait s'enfoncer. Ils retiennent que de mauvaises choses. Alors que l'apôtre Pierre a fait beaucoup de choses dans la Bible pour le Seigneur. Surtout lors de la Pentecôte, son discours lors de la Pentecôte, il y a eu 3 000 personnes converties en un seul jour. C'est énorme. Mais le monde ne retient pas ça. Le monde retient de l'apôtre Pierre, il a régné Jésus-Christ 3 fois et avec détail, avant que le coq chante. Il donne même les détails. Et on peut citer tant d'exemples comme ça. Faisons attention, frères et sœurs, faisons attention, le monde n'oublie jamais nos erreurs, nos faux pas. Ils oublient jamais. Abraham sortit de l'Égypte avec beaucoup de biens, dit la Bible. On a lu qu'il est sorti de l'Égypte, mais par contre, dans son lot quand il est sorti de l'Égypte, parce que il est dit qu'il est sorti avec des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, beaucoup de biens. Mais dans ce lot-là, parmi ces servantes qu'il a ramenées de l'Égypte, il y avait qui? Il y avait une fille qui s'appelait, une égyptienne qui s'appelait Agar. Et cette fille égyptienne est devenue un problème pour Abraham et Sarah. Je pense que vous connaissez l'histoire. Mais vous pouvez aller lire la suite de cette histoire dans Genèse 16, à partir du verset 1. Dans Genèse 16, parce qu'on n'a pas le temps de tout lire. à partir du verset 1. Dans le lot-là, quand il est sorti avec deux bœufs, avec beaucoup de richesses, de serviteurs, de servantes, dans ce lot-là, il y avait une fille égyptienne, une servante égyptienne qui s'appelait Agar. Et cette servante-là, Agar, est devenue un problème pour Abraham et Sarah. Nous n'allons pas rentrer là-dedans dans les détails parce que le temps fait défaut. Ce que nous pensons être les meilleures bénédictions du monde deviennent souvent le plus grand fardeau de la vie. Ce qui était comme des bénédictions pour Abraham quand il est sorti d'Égypte, il était entré en Égypte avec rien, il est sorti avec beaucoup de richesses, toutes ces bénédictions du monde, plus tard, c'est devenu un fardeau pour Abraham. Et ce problème continue jusqu'au aujourd'hui. On ne va pas rentrer dans les détails là-dessus. Et une fois de retour au pays de Canaan, on n'a pas lu ça, mais au chapitre 13, au début du chapitre 13, au lieu où Abraham avait bâti l'autel pour Dieu, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a invoqué l'Éternel. Sa foi a failli à cause de la crise, mais pas sa soif de chercher Dieu. Une fois de retour là où Dieu l'avait placé. Au début du chapitre 13, vous verrez, dès qu'il est sorti de l'Égypte, il est retourné là où Dieu l'avait placé à Canaan. La première chose, il a cherché Dieu. Sa foi a failli en Égypte, mais pas sa soif de chercher Dieu. Une fois de retour à Canaan, nous devons toujours nous tourner vers Dieu dans la repentance et l'humilité lorsque nous échouons, lorsque nous faisons de faux pas, lorsque nous faisons des erreurs. Nous devons toujours retourner au pied de la croix. C'est là que le Seigneur veut que nous soyons, toujours. Quand vous réalisez qu'il y a eu un « ça va pas », ne continue pas, reviens vers la croix de Christ, reviens vers à ses pieds, reviens à ses pieds, c'est là que le Seigneur te veut. Nous avons l'exemple dans la Bible, le fils prodigue. Le fils prodigue, il n'avait ni bonheur, ni joie, ni rétablissement, tant qu'il était là-bas où il était. Mais dès qu'il fut revenu vers son père, à l'endroit où il s'est égaré, il a eu le bonheur auprès de son père et la joie. C'est pour cela, frères et sœurs, je l'ai dit et je le répète, dès qu'il y a un faux pas, vous réalisez quelque chose qui ne va pas, ne tardez pas, revenez vers le Seigneur. C'est là où Dieu te veut, comme le fils prodigue est revenu vers son père, comme Abraham est revenu à Canaan, là où il avait fait un autel pour le Seigneur, pour l'adorer. En guise de conclusion, frères et sœurs, ce qui s'est passé avec Abraham face à la crise, face à la famine, peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Si nous perdons de vue Jésus-Christ, cela peut arriver à tous d'entre nous comme nous sommes là. Si nous regardons le monde et les soucis de la vie, au lieu de fixer nos yeux vers Jésus-Christ, en d'autres termes, si nous regardons seulement les circonstances comme Abraham a regardé les circonstances, si nous fixons toujours nos yeux sur les circonstances et non fixer le yeux sur Jésus-Christ, nous risquons de faire des compromis avec le monde. Comme Abraham a fait des compromis avec le monde et commence à dire que les Égyptiens ne le tueront pas. Que Sarah, que Abraham va, son âme va vivre à cause de Sarah. Ah non, non, nous vivons par la grâce de Dieu. Ne faisons pas ce genre de compromis. Pour nous, enfants de Dieu, chaque crise est une épreuve de foi. Est-ce que allons-nous faire confiance et nous soumettre de tout cœur à notre Dieu? C'est ça la question que chacun de nous doit se poser. Et il y a un cantique, et c'est par là que je vais finir, un cantique, si le frère peut affiché le cantique 392. Un cantique qui dit, celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne fait quoi? Jamais il ne chancelle. Jamais il ne chancelle. Complète et sa délivrance. Si nous pouvons chanter ces cantiques ensemble.